On dit plusieurs fois au nom du Ramchal que lorsque une fête arrive, comme Shavuot, Pessah, Shavuot, Sukkot, alors il ne s'agit pas de commémorer un événement qui s'est passé il y a des millénaires, mais il s'agit surtout essentiellement de vivre encore une fois à nouveau ce qui est arrivé à nos ancêtres. Attends, on dit chaque fois, chaque fête, il faut le répéter toujours. C'est-à-dire que lorsqu'on dit à Shavuot, Zman Matan Toratenu, ça veut dire qu'en fait, n'est-ce pas, on est en train de recevoir encore une fois la Torah. Chaque année, on reçoit la Torah. Hachem donne la Torah, en fait, tous les jours qu'on dit de la Torah, noter la Torah, c'est vrai. Mais cependant, il y a un jour précis dans lequel Hachem donne la Torah de façon très intense, flagrante, et bien c'est à Shavuot. Et d'ailleurs, c'est écrit dans Sfat Emet, et aussi Prit Tzadik, qu'en fait, à la fête de Shavuot, c'est comme si on va recevoir le potentiel spirituel de Torah et de Mitzvot qu'on va développer ensuite l'année à venir. C'est comme si on prend un appareil photo, on prend, n'est-ce pas, quelques photos, on a une pellicule. Et ensuite, on va aller développer ces photos. Par aussi à Shavuot, eh bien, notre conduite, la façon dont on va étudier, faire la tefila, recevoir la Torah, c'est ce qui va en effet déterminer toute la Torah qu'on va étudier et comprendre l'année à venir. Alors c'est pourquoi c'est important de se préparer auparavant à Shavuot, comment recevoir cette Torah. Top. Alors, le Maasé, en général, on a un petit problème. C'est ce qui s'appelle le Yetzer Hara. Plutôt, c'est un gros problème. C'est-à-dire qu'en fait, n'est-ce pas, on a envie tous de faire la Torah, le Mitzvot, mais le Yetzer Hara nous dérange. Top. Et non seulement cela, c'est qu'on a l'impression inconsciemment qu'en fait, cette Torah, on peut la recevoir, on aurait pu la recevoir, si on n'avait pas cet élément qui s'appelle Yetzer. C'est-à-dire qu'on se dit qu'on est plus ou moins limité. La Torah, n'est-ce pas, c'est bien beau, extraordinaire, mais c'est bien pour Rabbi Akiva, c'est bien pour Maïmonide, c'est bien pour Rashi Tosfot. Mais nous, avec notre niveau, c'est plus difficile, n'est-ce pas, de recevoir la Torah, de l'accomplir dans sa totalité. Alors on va essayer de voir aujourd'hui qu'en fait, c'est le contraire. C'est-à-dire que spécifiquement, grâce au Yetzara, parce qu'on a un Yetzara, c'est pourquoi on peut recevoir la Torah avec toute sa force, toute son intensité. Top. Alors, une Gemara qui est importante de voir avant Shavuot, dans Shabbat, Daf Pechet. La Gemara nous dit, Amar Rabbi Shimon ben Levi. Alors, c'est un midrash de ce qui s'est passé, nous dit Rabbi Shimon ben Levi, lorsque Moshe Rabbeinu est monté au ciel, eh bien, les anges, n'est-ce pas, on dit à Hachem, qu'est-ce que cet homme fait parmi nous? Hachem leur a dit, eh bien, il vient recevoir la Torah. Top. Et bon, et en fait, n'est-ce pas, les anges ont dit à Hachem, eh bien, comment est-ce possible cette Torah, qui existait depuis déjà, n'est-ce pas, 1000 générations avant le don de la Torah, elle était déjà créée, elle était déjà présente au ciel, comment est-ce que tu vas t'en séparer, comment est-ce que tu vas la donner aux hommes? Et Hachem a dit à Moshe, Moshe, donne-leur une réponse. Moshe dit à Hachem, j'ai peur qu'ils me brûlent par leur feu. Hachem dit à Moshe, eh bien, attrape mon trône, Echos Bekisekvodi, attrape mon trône, et tu pourras le répliquer. Et Moshe, en effet, a attrapé le trône d'Hachem, et a commencé, n'est-ce pas, à discuter avec eux. Et Hachem, Moshe a dit aux anges, vous voulez la Torah? Mais la Torah, n'est-ce pas, elle parle de mitzvot qui concerne le Yetzer Hara. C'est écrit dans la Torah de ne pas voler, ne pas tuer, pas commettre l'adultère. Alors en fait, n'est-ce pas, c'est uniquement quelqu'un qui a un Yetzer Hara qui peut se mettre à tuer ou voler ou commettre l'adultère. Alors que vous n'avez pas de Yetzer Hara. Donc la Torah n'est pas pour vous. En fait, n'est-ce pas, Moshe Rabbeinu, il a passé tous les 10 commandements pour montrer aux anges que la Torah, elle est pour les hommes, et non pas pour les anges. Et dit la Gemara qu'en effet, les anges étaient d'accord avec Moshe, et étaient d'accord de donner cette Torah aux Béné Israël, aux hommes. Top. Et ici, beaucoup de points à noter. On va s'arrêter sur deux points essentiels. Premièrement, lorsque Hachem a dit à Moshe, tu as peur d'eux, qui te brûlent, eh bien, tu n'as qu'à attraper mon trône. Alors là, le Marcha explique, ça veut dire quoi? Mon trône, eh bien, ici, un remèze sur la Neshama. En effet, c'est écrit que la Neshama, Et les Neshamot, elles viennent d'un endroit qui s'appelle, qui c'est que vous dites, le trône d'Hachem. On a dit plusieurs fois, il y a ce qu'on appelle la Nefesh, Ruach Neshama. On a trois grandes parties dans l'âme, Nefesh, Ruach Neshama. La Neshama, eh bien, c'est la partie la plus élevée, la plus spirituelle de l'être humain. Et elle vient d'un endroit céleste qui s'appelle le trône d'Hachem. Alors Hachem a dit à Moshe, si tu as peur d'eux, eh bien, il faut attraper ce trône d'Hachem, c'est-à-dire, tu dois te rappeler que ta Neshama, elle vient d'un endroit qui s'appelle, qui sait que vous dites le trône d'Hachem. Et c'est écrit dans un livre qui s'appelle L'Hachem Shiva Bachlama, un livre qui a été rédigé par le grand-père de Rav Eliashiv de nos jours, qui s'appelle Rav Shlomo Eliashiv, qui était un grand tzaddik. Et une fois, quelqu'un devait voyager à côté de sa ville, alors Chafetz Chaim lui a dit, rentre chez lui, rendre visite. Encore de nos jours sur Terre, on peut être à côté de lui. Dans le monde futur, personne ne pourra s'approcher de lui, tellement est grand sa tzidkout. Alors ce Rav écrit qu'en fait, la neshama, notre âme, elle vient d'un monde céleste qui dépasse le monde des malachim, le monde des anges. Donc Hachem a dit à Moshe, si tu veux le répliquer, tu dois te rappeler, tu dois faire appel à cette partie en toi qui s'appelle la neshama, cette âme céleste qui dépasse le niveau des anges. C'est-à-dire qu'en tant qu'homme, eh bien, on n'est plus là que les anges, parce qu'on a, n'est-ce pas, un corps humain, on a une partie d'âme qui s'appelle nefesh et ruach qui sont plus basses que le niveau spirituel des malachim des anges. Mais cependant, nous avons une partie qui s'appelle neshama, qui cette partie, elle est plus élevée, plus grande que les malachim, les anges célestes. Hachem a dit à Moshe, tu as aussi en toi une partie qui dépasse celle des anges. Fais appel à cette partie. Tu dois te rappeler, tu dois évoquer, tu dois fusionner avec cette partie en toi qui s'appelle Neshama, et là tu pourras leur trouver la réplique. Et c'est ce qu'a fait Moshe, n'est-ce pas? Il a donc attrapé le trône d'Hachem, c'est-à-dire qu'il a fait appel à cette partie qui s'appelle Neshama, et c'est là qu'il a pu dialoguer avec les Malachim. Bon. Deuxième point essentiel qui nous concerne, eh bien c'est le dialogue qui est entre Moshe et les Malachim. Alors, Moshe leur a dit, leur a prouvé que la Torah ne vous concerne pas parce que la Torah, elle parle du Yetzara. Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas mentir, etc. Alors la question se pose que si c'est ainsi, les Malachim connaissaient a priori la Torah. Alors pourquoi est-ce qu'ils voulaient garder cette Torah a priori? Comme on dit en araméen, Meikara, Maika Savar, Ulbatarachi, Maika Savar. Au début, qu'est-ce qu'ils se pensaient, les anges? Et qu'est-ce que Moshe leur a expliqué, leur a démontré, prouvé qu'il ne savait pas auparavant? C'était quoi le dialogue qu'il y avait entre Moshe et les Malachim? Alors notre maître, le Rav Volbe, explique cette Gemara de cette façon. Il dit qu'en fait, c'est sûr et certain que les anges, eh bien, savaient auparavant que dans la Torah c'est écrit qu'il ne faut pas voler, ne pas tuer, ne pas mentir, pas d'adultère. Ils savaient que ces halakhot-là ne les concernent pas, c'est sûr et certain. Mais la Torah dont les anges parlaient, c'est notre Torah, mais qui avait un sens différent. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre. Lorsqu'on parle d'une Torah, la Torah, elle est céleste. Elle était créée bah, des millénaires avant la création du monde. Et en fait, n'est-ce pas, cette Torah, elle avait auparavant un sens différent. C'est-à-dire que la Torah, quand elle était au ciel, elle avait un sens spirituel, divin, qui nous dépasse. Une fois qu'elle a été projetée sur terre, eh bien, automatiquement, elle a pris un sens qui va exactement concorder avec notre monde matériel. Il s'agit, entre guillemets, d'une, non pas d'une transformation, mais d'une adaptation de la Torah à notre monde. C'est-à-dire que, voilà, imaginez, dans cette pièce, voilà, il y a ici, il y a la clarté du soleil. Là, on ne voit pas encore le rayon, là, on voit déjà un rayon du soleil. Et pour voir le soleil, on doit sortir de la pièce pour le voir. Si on met un rideau, si le rideau, il est vert, eh bien, on aura dans cette pièce une couleur, une clarté de couleur verte. Si on met un rideau qui est rose, on aura une clarté de couleur rose, etc. C'est-à-dire qu'en fait, n'est-ce pas, tu peux avoir certaines transformations, pas selon l'écran que tu as, selon la projection que tu auras au fur et à mesure du temps et de l'espace. Par aussi, cette Torah, elle est divine, elle est céleste. Quand elle est projetée dans notre monde, eh bien, l'otir tsar, ça veut dire ne pas tuer. Mais au ciel, chez les anges, ne pas tuer, c'est un autre sens. C'est à la limite, même pour nous, Eh bien, ne pas tuer, ça peut avoir plusieurs significations. C'est écrit qu'on doit tous se préparer au matin de Torah. Moshe Rabbeinu aussi, lui aussi devait se préparer au don de la Torah. Lui aussi devait se préparer à cela. Alors pour lui, évidemment, lorsqu'on parle de ne pas tuer, c'est quoi ne pas tuer? C'est ne pas vexer quelqu'un. Parce qu'en effet, tu peux des fois tuer quelqu'un par une parole. Tu peux lui dire une parole vexante et tu l'as rendu malade pendant quelques semaines ou quelques mois et des fois même plus. Tu l'as tué par cette parole. Mais pas aussi pour voler. Eh bien, on peut voler une grande somme d'argent de façon normale, ordinaire. Ou alors, n'est-ce pas, des fois, on peut voler autre chose. On peut, par exemple, prendre le stylo de quelqu'un sans permission. Dit la Gemara, c'est du vol. Shoel shelomidaat gazlan ave. Si tu voles, si tu utilises un objet d'un camarade sans permission, c'est du vol. Si tu prends, n'est-ce pas, quand on t'a servi des savonnettes ou du sucre dans l'avion ou dans un restaurant, tu en prends plus que le patron, eh bien, soit prêt que tu les prennes, tu en prends quelques-unes dans ta chambre, c'est du vol d'après la halakha. On n'a pas le droit de prendre, n'est-ce pas, ne serait-ce que une savonnette, que une sauce tomate, une confiture, n'est-ce pas, un sucre qui vaut quelques centimes, c'est du vol qualifié. Alors ça aussi, il faut le comprendre que quand la Torah dit l'otignovu, ne pas voler, il ne s'agit pas uniquement de voler 1 million d'euros à la banque, mais aussi de voler quelques sous même chez quelqu'un qui est milliardaire. Alors la Torah, elle a plusieurs sens. Ça dépend de ton niveau spirituel. Chez les malachim, chez les anges, il ne s'agit même pas de cela. Il s'agit d'autres significations que nous ne connaissons pas. Oui, vas-y.
On a dit quand on dit l'otignovu, on ne parle pas de kidnapper des hommes.
C'est pour ça que j'ai dit l'otignovu. L'otignov, dans les 10 commandements, c'est kidnapper des hommes. L'otignovu, dans Parashat Kedoshim, c'est ne pas voler de l'argent. En effet, dans Kabbalat Torah, l'otignov, c'est voler, n'est-ce pas, quelqu'un, un enfant, pour ensuite vouloir le vendre chez l'homme. Parce qu'en effet, c'est aussi grave que le fait de tuer quelqu'un ou l'adultère. Alors que le fait de ne pas voler, c'est Parashat Kedoshim, l'otignovu, c'est écrit. En effet. Des fois, tu peux empêcher quelqu'un de s'exprimer, de s'épanouir. Tu empêches de quelqu'un d'être dans son élément naturel. Eh bien, tu l'as kidnappé. Tu l'as exilé, tu l'as empêché, n'est-ce pas, de réussir dans sa vie. C'est aussi, n'est-ce pas, un kidnapping. Alors, en fait, les malachim, les anges, avaient un sens de la Torah que nous ne connaissons pas. D'ailleurs, sachez que c'est écrit que la Torah, elle est écrite d'une certaine façon. Donc, vous savez, on peut la délimiter. L'écrire, la décomposer de versets différentes, de phrases différentes. Tu peux la lire, n'est-ce pas, en formant des versets différents. Tu peux, n'est-ce pas, par exemple, rapprocher toutes les lettres et former des mots nouveaux, des mots différents. Tu peux la lire à l'envers. Il y a aussi un sens de la Torah quand tu prends toutes les lettres Aleph de la Torah, eh bien c'est déjà une nouvelle Torah, un nouveau sens. Toutes les lettres Bet, lettres Guimel, on a aussi les gematriot, les valeurs numériques. On a aussi, n'est-ce pas, des fois, ce qui s'appelle Tochaotiot. Par exemple, Aleph. Aleph, c'est une lettre qui s'appelle Aleph. Mais en fait, quand tu vas écrire Aleph, c'est trois lettres. Aleph, Lamed, P. Tu peux aussi, n'est-ce pas, continuer. Alors un Aleph, c'est composé de trois lettres qui sont Aleph, Lamed, P. Alors le Aleph, tu peux encore l'écrire une fois, Aleph, Lamed, P. Le Lamed, tu peux l'écrire Lamed, même d'Aleph. Et le P, tu peux l'écrire P, Aleph ou P, etc. Ça va même à l'infini. Donc en fait, n'est-ce pas, cette Torah, elle a un sens qui est infini. Et les malachim, les anges, étudient la Torah à leur niveau, un niveau qui dépasse le nôtre. Et c'est pourquoi les malachim, les anges, ont dit à Moshe, ont dit à Hachem, cette Torah, tu vas la donner au Bnei Israël. Donc nous, on va s'en séparer. Entre parenthèses, pourquoi s'en séparer? Parce que la Torah, on peut concevoir qu'elle est et chez les hommes et chez les anges. Non. Parce que la Torah, une fois qu'elle est donnée aux hommes, ça veut dire que c'est les êtres humains qui vont diriger le monde par la Torah. Avant que la Torah ne soit donnée, eh bien, le monde était dirigé par les malachim, par les anges, par leur étude de la Torah. Une fois que la Torah nous a été donnée, eh bien, c'est nous qui allons décider ce qui va se passer dans le monde grâce à notre étude de la Torah, grâce à l'accomplissement des mitzvot. C'est pourquoi, en effet, le Bedin a une force extraordinaire, une puissance vraiment exemplaire. c'est que le Bedin, ce sont eux qui sont en train de décider la halachot. Qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. Hachem a transmis au Bedin, au Sanhedrin, de trancher la halacha. C'est plus les malachim qui vont trancher, mais c'est le Bedin. Il y a aussi une Gemara, bien connue de Bamtzia, il y avait une fameuse discussion entre Rabbi Lazar et les Hachamim. Pour un certain four, est-ce qu'il peut être impur ou pas? Et Rabbi Lazar, qui était sûr et certain qu'il avait raison, il a commencé à faire des miracles. Il a dit que si j'ai raison, eh bien que ce cours d'eau, ce petit fleuve, commence à couler dans le sens inverse. Et en effet, la rivière a commencé à couler dans le sens inverse. Rabbi Yoshua, qui était le dirigeant des Hachamim, a dit, on n'a même pas des preuves de la rivière. Ensuite, Rabbi Lazar a dit, eh bien, si j'ai raison, eh bien que ce caroubier, il y avait un arbre, ce caroubier se déplace de cet endroit à là. Et en effet, le caroubier s'est déplacé. Rabbi Yoshua a dit, c'est pas avec tes miracles que tu vas nous impressionner, c'est pas une preuve. Ensuite, Rabbi Lazar a dit, si j'ai raison, eh bien que les murs du Beit HaMidrash s'écroulent. Pour montrer que j'ai raison, n'est-ce pas? Parce que ça voulait dire qu'en fait, que si vous ne voulez pas m'écouter, eh bien c'est comme si on va écrouler le Beit HaMidrash. Et les murs ont commencé à trembler pour s'écrouler. Rabbi Yoshua leur a dit, de quoi vous vous mêlez? Nous on discute de la Torah, ce n'est pas votre affaire. Alors les murs ne savaient pas quoi faire. Rabbi Yoshua leur dit de rester en place. Rabbi Lazar leur dit de s'écrouler. Alors ils sont restés penchés les murs. Ensuite, Rabbi Lazar a dit, si j'ai raison, eh bien qu'une voix du ciel sorte pour le prouver. En effet, une voix céleste a déclaré, annoncé, laissez en paix mon fils Rabbi Lazar, parce qu'en effet, la halakha est comme lui dans tous les cas. Et Rabbi Yoshua s'est levé et a dit, lo bashmaim vi. La Torah n'est pas au ciel. C'est un verset dans la Torah, Parashat Nitzavim. La Torah n'est pas au ciel, mais Hachem a donné la Torah aux hommes. Ça veut dire quoi? La Torah, avant le don de la Torah, elle était au ciel chez les anges, en effet. Depuis que la Torah nous a été donnée, eh bien, Hachem a transmis au Bedin, au Gdolé Hadok de la Torah, au Sanhedrin, de trancher la halakha, la Torah. Si le Bedin, eh bien, estime que la halakha est ainsi, même si au ciel, les anges, n'est-ce pas, les voix célestes prétendent la halakha différente, c'est pas grave. C'est nous qui tranchons la halakha. Et d'ailleurs, la Gemara rapporte, quelques lignes après, que un des Tanaïm qui était présent, eh bien, a rencontré et lui a un avis quelques jours après. Il lui a demandé, il lui a dit, dis-moi, que lorsque Rabbi Yoshua s'est levé, il a dit, il a répliqué, il a dit, la Torah n'est pas au ciel. Eh bien, qu'est-ce qu'a dit Hachem? Comment est-ce qu'Hachem a réagi? Et le Hanavi lui a dit, Hachem a déclaré, a dit, Netzachoni banai, Netzachoni banai. Il a dit, mes enfants m'ont vaincu, ils ont raison. Et d'ailleurs là-bas, disait Mfarshim, qu'en effet, c'était une épreuve pour Rabbi Yoshua. Parce qu'en effet, c'est ce qu'il devait faire. C'était une épreuve, est-ce qu'il allait être impressionné par la voix céleste, ou alors dire non, la Torah, n'est-ce pas, elle nous est transmise, évidemment, on doit la trancher avec un esprit qui soit tout à fait objectif, qui soit évidemment conforme à la Torah, mais selon, n'est-ce pas, ce qui nous semble émettre, ce qui nous semble véridique selon la Torah, on le tranche, et c'est nous qui devons le trancher, et Hachem est d'accord avec cela, même si les anges prétendent autrement. Donc en fait, n'est-ce pas, c'était une parenthèse, pour dire qu'en fait, lorsque cette Torah a été donnée, c'est-à-dire qu'elle a été prise des malachim des anges, nous a été transmise et donnée. Donc elle n'est plus chez les anges. Donc la Torah, le monde, est dirigé par la Torah qui va être étudiée, qui va être enseignée, tranchée, par les Gdolé Hador, par les grands rabbanim de chaque génération. Et c'est pourquoi les anges avaient peur auparavant. Comment est-ce que cette Torah, tu vas nous la prendre? Elle va nous quitter, tu vas la transmettre aux hommes. Va savoir ce qu'ils vont faire de cette Torah avec leur Yetzerara, avec leurs mauvais penchants, leurs instincts, avec leurs problèmes. Chez nous, la Torah, elle est divine. Donc les anges ont dit à Moshe, ont dit à Hachem, nous, on étudie la Torah à un niveau bien plus élevé, bien plus divin que ceux des hommes. On va donner cette Torah aux hommes. Alors l'otirtsakh, ne pas tuer, qui pour nous, c'est une idéologie philosophique très profonde, très subtile, très fine, n'est-ce pas, très spirituelle. Maintenant, eh bien, cette Torah va être projetée, va être rabaissée dans un monde matériel. Ne pas tuer, c'est ne pas tuer, point final. Ne pas voler, pas prendre de l'argent chez le banquier, c'est tout. Alors, automatiquement, cette Torah, elle va être rabaissée à un niveau beaucoup plus bas, beaucoup trop matériel, trop concret. C'est dommage, on dit le Mahatma Hachem. Mieux vaut que cette Torah reste chez nous, qu'on la possède. On va l'étudier, on va, n'est-ce pas, diriger le monde de cette façon-là. Eh bien, il y aura plus de Kvod Shamaim, plus de gloire du nom d'Hachem de cette façon.